L'histoire, le message que j'ai pour vous traite d'une jeune ado et d'une femme d'un certain âge. Et c'est une histoire qui prépare Noël. Le chant de la jeune fille vient à un moment très important dans sa vie et il a beaucoup à nous enseigner. Qui ici sait vers quel âge les jeunes filles se fiançaient au premier siècle? Oui? C'est ça? C'est juste après la puberté, vers 12-13 ans, c'est vrai. Les deux premiers chapitres de Luc, donc c'est très jeune, hein? Les deux premiers chapitres de Luc ressemble à une comédie musicale par la manière que l'histoire est entrecoupée par les chants, les discours d'anges, les prophéties, tout en poésie. Marie, Zacharie, Siméon ont tous des chants spéciaux et même Élisabeth prophétise. En effet, aucune autre section narrative du Nouveau Testament combine l'histoire et la poésie d'une manière qui ressemble autant à l'Ancien Testament. Ce matin, j'aimerais regarder le premier de ces chants, le chant de Marie, qui jaillit comme une fontaine dans le désert et concentre notre attention au milieu de nos épreuves sur notre Dieu puissant, mais miséricordieux. Avez-vous jamais remarqué comment les chants d'une comédie musicale portent les thèmes de l'histoire? Le chant gèle l'action et concentre notre attention sur ce thème. J'avais l'habitude avant de sauter par-dessus les passage poétique pour arriver à l'action. Mais maintenant, je me rends compte que la poésie nous ralentit exprès. Il concentre notre attention sur l'essentiel. Il nous aide à nous souvenir, il nous aide à interpréter l'action. Le chant de Marie deviendra le chant thème de tout l'évangile de Luc. Le Dieu grand et puissant montre de la miséricorde aux humbles. Il renversera les structures de pouvoir parce que Dieu aime les petits. Il est venu pour les mépriser, les pauvres, les malades. Le chant de Marie se trouve au tout début de l'Évangile. Trouvez-vous intéressant que Luc ait choisi le chant d'une femme tôt dans son histoire pour exposer les thèmes de tout son Évangile en forme poétique? Maintenant, je vais demander à Josué, oui, de venir lire le passage. Merci.
Donc, dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route, et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a béni, plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. » Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie. À cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône. Il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle.
Est-ce que c'est bien? Vous m'entendez? Cette chanson émerge de la louange, de l'exultation d'une femme qui s'émerveille devant l'action de Dieu dans sa vie. Ensuite, Marie généralise son expérience. OK. Non? Bon, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas lire les mots. Ce que je veux que vous voyez, c'est les couleurs. Okay? Le chant de Marie, comme le chant de Anne, la mère de Samuel, des siècles avant, sont des psaumes de louange, assez communs dans le livre des psaumes. Ils commencent avec une déclaration de louange que vous voyez en noir, et il continue avec les raisons pour cette louange, tout en bleu. On va les voir tantôt. Mais avant de regarder le chant même, considérons son timing. C'est très bien de recevoir la visite d'un ange et tout, de recevoir de grandes promesses, mais avant qu'elle puisse voir quoi que ce soit de tout ça, Marie devra passer par un tunnel, devenir enceinte hors du mariage. Et c'était pire dans ce temps-là que ça l'est aujourd'hui. Qui la croira? Avant qu'elle puisse goûter à la réalisation de la promesse, elle devra risquer la honte, l'humiliation, l'incompréhension, non seulement de la société, mais de ce qu'elle aime le plus. Qu'est-ce que ses parents vont dire? Qu'est-ce que Joseph dira? Qu'est-ce qu'il fera? En embrassant la promesse de Dieu, cette jeune fille risque tout ce qui lui donne la sécurité et l'amour dans sa vie, sauf sa foi en Dieu. Et pourtant, le chant se trouve placé exactement à ce moment, entre la promesse et l'orage qu'elle puisse percevoir sur l'horizon. exactement au point où la plupart d'entre nous serions une boule de neige. Mais à la fin de son discours, Gabriel lui avait laissé un renseignement top secret, précieux. Sa cousine âgée, Elisabeth, était enceinte. Quoi? Après toute une vie sans pouvoir concevoir? Et maintenant qu'elle est passée l'âge? C'est un miracle. Marie est le seul à le savoir, sauf Zacharie, bien sûr, car Elisabeth s'était cachée pendant 5 mois en se joignant au silence de son mari avec le plus grand, le meilleur secret qu'elle a jamais eu. Alors, quand Marie entend cette nouvelle exclusive sur Elisabeth, elle part avec hâte. Elle ne perd pas une minute. Qui d'autre qu'Elisabeth pourrait comprendre? Le voyage de Nazareth à la maison de Zacharie en Judée est d'environ 150 kilomètres à travers un terrain montagneux et parfois dangereux. Luc ne nous dit pas comment elle y arrive, mais nous savons qu'elle est déterminée. Marche longue et dangereuse, peu importe, elle y va. Marie semble savoir dans ses tripes qu'Élisabeth va comprendre. Tout de même, j'imagine que c'était pratiquer leur rencontre comme 100 fois pendant qu'elle marchait pour y aller. Comment vous vous sentirez-vous? Mais quand elle y arrive, c'est bien mieux que tout ce qu'elle avait pu imaginer. La minute que Marie entre dans la maison et salue sa cousine, Élisabeth sent l'enfant sauter dans son ventre, sauter de joie. Non seulement elle sait déjà que Marie est enceinte, mais elle sait que la petite Marie est la mère de mon Seigneur. Il ne faut pas que je me perde. Élisabeth reçoit Marie. Elle l'affirme, elle la bénit avec l'autorité de l'Esprit-Saint. C'est exactement ce dont Marie avait besoin. N'est-ce pas beau que l'Esprit-Saint utilise une femme âgée, mise de côté pendant des années, pour encourager Marie quand, exactement maintenant quand elle en a le plus besoin? C'est à ce moment que Marie chante sa louange. L'Esprit-Saint lui donne une capacité remarquable de se concentrer sur Dieu et de voir grand. C'est comme si, pendant qu'elle loue, Dieu l'amène sur le haut d'une montagne où elle peut voir dans toutes les directions. Elle peut voir des générations passées jusqu'à Abraham. Et elle peut voir des générations futures jusqu'à l'Oasis. Parce qu'elle sait qu'elle a été appelée à, ce qu'elle a été appelée à vivre va secouer le cours de l'histoire. Que les générations futures vont la croire la femme la plus privilégiée de jamais avoir marché sur la terre. Maintenant, regardons son chant. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de comment louer Dieu? OK, je sais que vous ne pouvez pas le lire, mais vous pouvez voir qu'il y a noir, rouge et bleu, non? Et en deux parties, Ça, vous pouvez voir, la première partie, c'est Marie. Je loue Dieu de ce qu'il a fait pour moi. Il a fait le grand... car le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Et la deuxième partie, c'est pour son peuple. Il a secouru Israël, son serviteur. En noir, c'est l'action de Dieu pour Marie ou pour son peuple. En rouge, c'est la personne ou le groupe. Et en bleu, le rythme change. Nous avons le refrain de la miséricorde de Dieu de génération en génération. Marie montre un équilibre très sain entre elle-même, Dieu, ou on va commencer par Dieu elle-même, et son peuple. Ce n'est pas juste à propos d'elle dans son petit monde avec Dieu. Marie se préoccupe énormément de son peuple. Et dans toute l'histoire de ceux qui sont humbles, c'est-à-dire qui se rendent compte qu'ils ont besoin de Dieu. Pour perfectionner cette technologie-là encore. OK. Dans la deuxième, OK. Dans la deuxième moitié, il y a quelque chose de nouveau qui entre en jeu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques affaires oranges. Orgueilleux, puissant, riche. Qu'est-ce que les méchants viennent faire dans l'histoire de Marie et le bébé? Ça, c'est une idée fausse qu'on a. Notre monde a rendu... Noël, comme c'est présenté dans notre société, n'est pas le Noël de la Bible. Hein? Le Noël de la Bible est encadré par des méchants. Hérode le Grand, César Auguste. Ils font partie de l'histoire. Marie utilise des verbes forts pour décrire des actions de Dieu. Dispersé, renvoyé, renversé. Son psaume n'est pas écrit en pastel avec des petites fleurs. C'est fort. Le point culminant du chant est dans les versets 52 et 53. OK, je vais prendre des grands mots là. On utilise une structure rhétorique très forte. C'est un parallélisme antithétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des opposés. Dans la première ligne, il a renversé les puissants de leur trône. Ça, c'est déjà un opposé. Quelqu'un qui est puissant est sur le trône. Il n'est pas renversé du trône. Ça, c'est... Il a élevé les humbles. Ça, c'est un autre opposé. Parce qu'un humble est supposé être en bas, pas en haut. Et puis, là, on a mis ça l'un après l'autre. Donc, la deuxième ligne est le contraire de la première ligne, non? Donc, et ensuite, il fait la même chose une deuxième fois. Il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches, les mains vides. Tout ça signale un emphase fort et non pas un ajustement temporel. Maintenant, j'aimerais des volontaires pour illustrer cette idée-là. Oh, j'en ai, merci. C'est gentil. OK. Marc va je ne dis pas que Marc est un puissant, orgueilleux et riche, mais il va jouer le rôle. OK? Donc, et voici son trône. J'aurais mieux aimé un trône très élevé, là, mais est-ce que ça peut passer pour un trône? OK. OK. Il a le nez dans les airs. OK, ici, nous avons un humble. Bon. OK, qu'est-ce qui va se passer? Il est tellement que vous ne pouvez plus voir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va renverser les puissants de l'autre et il va élever les humbles. Okay. Oh. Et il a rassasié de bien les affamés. Et c'est pas de la bouffe, là? Et, OK.
Ben, il y en a un arabe qui fait de la bouffe.
OK. Pouvez-vous... OK. Après ça, le rythme ralentit et s'élargit pour comprendre toute l'histoire montrant l'importance de cette naissance qui manifeste la puissance et la miséricorde de Dieu de génération en génération. Tout l'évangile de Luc va décrire la manière que Dieu agit à travers Jésus pour renverser les structures de pouvoir de manière surprenante. L'armée d'anges qui remplit le ciel de lumière n'apparaît pas aux riches et aux puissants, mais annonce la naissance de Jésus aux humbles bergers. Les lépreux rendus saints louent Dieu. Pauvre Lazare et l'homme riche trouvent leur rôle complètement renversé après la mort. Le roi de gloire sera humilié et crucifié et enterré, mais il ressuscite et il aura le dernier mot. Mais Luc nous rappelle aussi que la ligne entre les orgueilleux et les hommes n'a pas besoin d'être permanente. L'espoir pour moi. Même les riches et les puissants peuvent s'humilier, comme Zachée, qui, après avoir rencontré Jésus, donne libéralement de son argent aux pauvres et utilise son pouvoir pour le bien. Comment pouvons-nous être comme Marie? Comment pouvons-nous louer Dieu avec un tel abandon et autant de foi devant le risque et l'inconnu? Premièrement, Marie sait qui elle est. Elle est humble, ordinaire, mais aimée et choisie par Dieu, pleine de sa grâce. Deuxièmement, Marie sait qui Dieu est parce qu'elle se souvient. C'est la devise du Québec, non? Je me souviens. L'Ancien Testament entier témoigne de la bonté de Dieu envers l'humanité et Marie connaissait son histoire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a l'école du dimanche. C'est très important qu'on apprenne les histoires. Plusieurs psaumes aussi rappellent l'histoire du peuple d'Israël. La personne que Dieu a choisie pour faire son alliance spéciale avec l'humanité dans l'Ancien Testament était un homme âgé et sa femme trop vieille pour avoir un enfant. Des gens étranges pour commencer un peuple, non? Luc continue de raconter l'histoire du peuple de Dieu passant par de l'Ancien au Nouveau Testament. Et la première personne que nous rencontrons qui incarne la foi radicale d'Abraham, curieusement, est une très jeune fille. Prête à risquer tout ce qu'elle a. OK. Pour embrasser les promesses de Dieu, un autre choix étrange, mais dans le style de Dieu. Alors, ne pense pas, je suis juste un enfant. Ah, je suis rien qu'un ado. Dieu a choisi un jeune ado pour avoir joué un rôle crucial dans son plan. Tu peux être humble, ordinaire, mais tu es aimé et Dieu veut agir puissamment dans ta vie. Comme avec Marie, il veut te remplir de sa louange. Es-tu une femme invisible d'un certain âge? Ou n'importe quelle autre catégorie que tu penses être sans réelle importance? Rappelle-toi que Dieu a rempli Élisabeth de l'Esprit Saint à ce moment crucial pour affirmer et encourager Marie quand elle en avait besoin. J'imagine qu'elle en avait besoin. Qui est-ce que Dieu pourrait t'appeler à encourager aujourd'hui? Suivons l'exemple d'humilité de Marie, qui se regarde comme Dieu la regarde, humble mais aimée, et à travers l'Esprit digne d'une mission cruciale, que nous puissions, comme Marie, te louer maintenant, au milieu de nos inquiétudes et de l'inconnu. Fais de nous un peuple de louanges, complètement heureux, juste être dans ta volonté. Merci.